C'est bon, c'est parti.
Stop. Bonjour et bienvenue chez vous. C'est le nouveau podcast de la semaine, podcast 160. Bienvenue sur gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast chantant et un podcast exceptionnel puisque désormais vous le savez pour la seconde fois, eh bien tous les mois, eh bien nous vous questionnerons directement. C'est vous qui allez lancer les débats, c'est vous qui allez faire les questions qui vont animer ce podcast puisqu'il s'agit du courrier des lecteurs, donc de votre courrier et de nos réponses. Courrier des lecteurs numéro 2, podcast 160 avec, eh bien cette semaine, en invité, Monsieur Mimic. Ça va Mimic ?
Bien et toi ?
From Marseille.
Je suis content, tu m'as toujours pas répondu là. Bien et toi ?
oui,
ça fait
ça
des
va.
Années qu'on en parle.
Mais à la fois, tu sais, je vais casser la magie de ces podcasts. En fait, on se dit pas bonjour pour la première fois maintenant.
C'est vrai.
On s'est déjà vu depuis beaucoup d'heures. Et tu sais que je vais bien aujourd'hui.
C'est vrai ?
Oui.
Bon,
oui,
il s'est fait détrousser par les Thaïlandaises.
C'est ça,
ah, oui.
Thaïlandais.
Oh là, bah, on n'en sait rien en même temps.
Bah, ça pourrait être mal compris.
Ce n'est que particulièrement parlant, et Julo aussi d'ailleurs.
Tout à fait.
Oui, ceci, des histoires de vol de carte bleue.
Ne vous regarde pas.
Bref.
Ça va vraiment, ça va Julo ?
Oui, ça va très bien.
Ça va très bien, et toi ?
Bah écoute, ça fait plaisir que tu me le demandes, parce que Mimic l'avait pas fait. Effectivement, oui, ça va bien. Allez, on commence avec vos questions. Donc, on vous le rappelle, une fois par mois, on va vous questionner. On vous lance une news sur gameblog.fr et vous pouvez, dans le forum, eh bien, poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Les 100% jeux vidéo, hein, bien évidemment, qui concernent l'industrie du jeu vidéo ou Gameblog. Et on en sélectionne de nombreuses et on y répond maintenant tout de suite. Alors, on va commencer avec première partie, les questions qui concernent l'industrie du jeu vidéo. Donc, les questions générales sur le jeu vidéo et tout à l'heure, les questions un peu plus dédiées à gameblog.fr, t'as vu. Première question, elle vient de Arles. Alors, Arles nous demande, comment réagissez-vous face au destin de Castlevania Lords of Shadow, rappelant celui de Dead Space et de bien d'autres ces dernières années, de bons jeux, poussés par la critique et pourtant boudés par les joueurs? En clair, vaut-il mieux avoir plein d'affiches que de bonnes notes? C'est une bonne question.
C'est ouais. Marrant, Arles, nous en parlions ce matin même, lorsque Julien écrivait sa news et puis qu'on...
On est lundi, hein, quand on enregistre ce podcast.
Voilà, tout à fait. Ah, merde, j'ai brisé le secret.
C'est ça.
Et justement, on a été se rencarder un peu sur les chiffres. On était à 200 000 la dernière fois qu'on avait regardé. Mm-hmm. Là, on était à 400. Il y a eu finalement une espèce de stagnation. On aurait pu penser que ça baisserait. Mais ah non, il y a le jeu bénéficie quand même d'un bon bouche à oreille. Ouais. Parce qu'il n'est pas encore sorti au Japon.
Non.
Il va sortir avec un...
Le 16 décembre, il sort au Japon.
Ouais, avec un bundle MGS4, etc. Donc on verra à partir de là. Je pense pas qu'il atteindra le million de sa carrière, mais effectivement, comme il le dit implicitement dans sa question, il a Lords of Shadow a pas eu un grand soutien marketing de la part de Konami, ouais.
Zéro,
il y a pas
qui doit s'en mordre les doigts. Mais du coup, ce qu'on se disait ce matin justement, c'est ça va peut-être pas les empêcher de faire une suite parce qu'ils voient bien que la qualité était au rendez-vous, que ça a plu à tous ceux qui ont pu y jouer, qu'il y a eu un bon bouche à oreille. Donc voilà, ça laisse un peu d'espoir pour la suite, mais c'est vrai que pour répondre à sa question, il vaut mieux, malheureusement aujourd'hui, enfin tout du moins, il faut avoir quand même un bon jeu, mais ça vaut mieux quand on a une bonne publicité
ça,
quand même
sûr.
Qui va pousser le...
Pour réaliser un carton à la Modern Warfare,
il n'y a pas de
secret. Dizaines de millions d'exemplaires, c'est 360 millions de dollars réalisés en day one dans le monde, c'est
voilà.
Colossal. Là, c'est clair que le battage médiatique n'est pas le même. Juste deux petits éléments, effectivement, comme tu le disais, Julo, généralement un jeu, là on parle de la moyenne des jeux, se vendent sur leur première semaine, et puis après ça s'effondre. Hein, c'est 80-60% de moins.
C'est vraiment toujours les premières semaines qui sont importantes
pour les jeux gamers.
Ce qui n'a pas été le cas ici, hormis les jeux Nintendo qui sont vraiment long tail comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire qu'ils se vendent sur la continuité. Ce qui a clairement pas été le cas ici, ce qui veut dire qu'il y a eu un bon bouche à oreille. Ça veut dire que même la deuxième semaine ça avait pas mal baissé, mais la troisième semaine ça remontait.
Ouais.
Donc ça veut dire que vraiment il y a une nouvelle vague de personnes qui l'ont acheté, probablement après l'avoir vu ou avoir entendu des conseils d'amis. Et c'est là justement où la presse a joué son rôle, c'est-à-dire que
mais en France en particulier justement,
exactement,
parce qu'effectivement en France par rapport au reste de l'Europe et du monde en attendant en tout cas le Japon, il a plutôt pas si mal marché que ça, puisqu'il est même rentré dans le top 10 des...
Il était deuxième la semaine de son lancement.
Voilà, donc on est peut-être face à une bonne exception française pour une fois, parce qu'elles sont pas toutes bonnes, mais bon.
Je trouve que la campagne n'est pas forcément... J'ai envie de dire c'est un élément en plus, tu vois, mais c'est pas indispensable finalement.
Le marketing ?
Oui, voilà. C'est, non,
ah,
c'est,
si on veut obtenir des bons résultats, si.
Ça,
aujourd'hui, on est dans un monde, malheureusement, sans bonne communication.
Mais quand tu dis qu'au bout d'une semaine, ça s'effondre généralement pour les gros titres, là, pour le coup, ça prouve bien qu'il y a une marge de progression. Donc
mais
rien
après avoir
n'empêche
vendu
à terme...
énormément plus.
Oui, d'accord, bien sûr. Mais bon, Non, il y a quand même un espoir aussi pour les, tu vois,
c'est sûr.
Pour les, les jeux qui ont une vraie qualité et donc qui, ça se voit sur le long terme. Donc voilà.
Tout ce qu'on souhaite, c'est que dans la tronche de Konami, ils se disent voilà, laissons une deuxième chance à la licence qu'on a voulu faire renaître, mais pas en y mettant forcément les moyens, ce qui est dommage.
Ouais. Juste un autre truc aussi, juste pour le savoir, grosso modo, sur les gros titres, ce qu'on appelle plus communément les triple A, souvent quand il y a des moyens derrière, un minimum, il y a autant d'argent qui est dépensé en marketing qu'en développement. C'est moitié-moitié sur le budget général de commercialisation et de réalisation d'un jeu. Donc ça fait quand même, c'est quand même énorme.
T'imagines ce qu'on pourrait faire avec tout l'argent sur le jeu ?
Et pour vous donner un petit ordre d'idée, par exemple, pour un jeu qui coûte à peu près 20 millions d'euros à produire, il faut, pour être rentable, à peu près en vendre 1 million, à peu près. Très clairement, ce Castlevania n'a pas dû coûter cette somme-là. Donc probablement qu'à 500 000... ou 600 000 exemplaires, ce qu'il pourrait faire avec le Japon.
On connaît pas son seuil de rentabilité, mais effectivement.
Il devrait rentrer ric-rac, mais dans ses frais. Donc c'est pas si un plantage que ça aurait pu le laisser présager, en tout cas dans les premières semaines. Donc voilà, effectivement, c'est le rôle de la presse, de toute manière, n'est pas là pour faire vendre des jeux. Il est là pour vous indiquer à vous quels sont, vous donner, vous conseiller. Après, c'est vrai que quand nous on a des coups de cœur, c'est vrai qu'on aime bien appuyer les jeux comme on l'a fait pour Braid, pour Flower, pour ce Castlevania. Voilà, quand il y a des jeux qui nous tapent dans l'œil, on a envie de les accompagner et de les soutenir.
Flower.
Voilà.
Flower, ça a été encore mille fois pire, mais bon.
Allez, on passe à une nouvelle question, celle de Timothy qui nous demande « Avec l'arrivée du PS Move et de Kinect, pensez-vous que cela rehaussera les ventes de ces consoles, PS3 et Xbox 360, ou bien la Wii restera-t-elle leader du marché en vente de consoles ? Croyez-vous vraiment que le large public ira s'acheter le PlayStation Move ou Kinect ? Quelles chances ont-elles avec la Wii qui s'est déjà bien implantée dans les esprits des gens ?» J'aime bien avoir
Il y a plein de questions dans cette question.
Ouais, c'est ça.
Question très cascade. France 3, enquête exclusive.
Pensez-vous que cela rehaussera les ventes des consoles ? Moi, je dirais qu'en tous les cas, ça les fera pas baisser.
Non.
Ça va leur permettre, en tout cas, la stratégie, c'est de pouvoir tenir. En tout cas, Microsoft le dit clairement, c'est de pouvoir rallonger la durée de vie de la Xbox 360 avec Kinect, c'est-à-dire continuer à en vendre plus longtemps que ça aurait été sans Kinect.
Rattraper la Wii, ça je pense
la Wii,
c'est
non.
Une douce illusion. C'est du rêve.
Elle a tellement d'avance.
Par contre, c'est clairement pour relancer une deuxième vie, si tu veux. Ouais. Voilà, parce qu'on sait que le cycle des consoles est vachement plus long là sur cette génération.
Vachement, donc, c'est pas sûr.
Devrait être plus long en tout cas. Voilà, sur cette génération, ça devrait en tout cas y contribuer, ça c'est sûr.
On reviendra dessus d'ailleurs tout à l'heure. Il y a d'autres questions sur la next gen, comme on va être quasiment obligé de l'appeler, puisqu'on appelle quasiment encore cette génération la next gen.
Ce qui est une connerie, hein. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais
c'est
bon.
Certain.
C'est parce qu'on a fait une croix sur les bits.
C'est vrai, mais c'est vrai, et du coup on peut plus. Il faut qu'on trouve un nouveau nom. C'est une réalité. Mais pour resituer un petit peu les choses, la Wii aujourd'hui c'est environ 70 millions de consoles, 75 millions de consoles vendues dans le monde, là où la PS3 et la Xbox tirent la bourre à peu près 40 millions d'unités chacune avec un léger avantage pour la Xbox 360 pour l'instant. En gros, si vous additionnez la Xbox 360 et la PS3 en volume, vous êtes légèrement supérieur aux ventes globales de la Wii. En gros, il faudrait un sursaut colossal pour dépasser la Wii.
Autant le dire clairement.
Sauf si elle s'arrête de vendre soudainement. Voilà, en fin de vie peut-être. Mais
ce qui n'a pas l'air d'être le cas, même si la dynamique baisse, ils continuent à vendre de la Wii, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain, en tout cas.
Et puis, avec l'autre point important, c'est que ce ne sont, mine de rien, que des accessoires en plus chers. 149 euros pour Kinect, une centaine d'euros pour s'équiper avec le PlayStation Move et pour jouer à une seule personne. Donc forcément.
Mais moi justement, c'est marrant que tu soulèves l'argument du prix parce que je me demande combien de temps ces accessoires vont rester à ce prix-là et est-ce que ça changera vraiment leur dynamique s'il devait y avoir une baisse de prix passé Noël 2010. Donc peut-être que.
Et moi je me demande si dans les mois à venir, genre période 3, si Kinect et le PS Move ne seront pas bundlés de facto
avec plein de jeux
toutes
différents.
Les PS3 et toutes les Xbox 360.
Mais Microsoft avait dit qu'ils feraient ça.
On arrête les packs, quoi.
Ils avaient dit qu'ils
à la base, ils avaient dit ça.
Et je pense qu'ils pensaient le faire probablement avec la nouvelle Xbox Slim. Ils
on avait
pas,
même
finalement
cru comprendre qu'ils fileraient Kinect à ceux qui avaient déjà une Xbox 360 et qu'ils le bundleraient avec toutes les nouvelles, etc. Bon,
ça, c'était l'ancien Microsoft qui aurait fait ça. Celui qui perdait des milliards et des milliards. Aujourd'hui, ils se disent que c'est quand même pas trop con dans... garder un petit peu
parce qu'il faut le rappeler effectivement le plus gros défaut de Kinect et du PS Move c'est qu'ils sont pas natifs ils sont pas directement vendus avec la console depuis le départ
est-ce vraiment leur plus gros défaut
pour ce qui est de rattraper la Wii et d'avoir une dynamique qui vend des consoles puisque c'est la question oui quand même
Tu crois que ça va faire vendre des consoles? Bah, je crois.
Ah, bah si, ça va faire vendre des consoles, autant... mais pas forcément tant que ça. Oui, ça
non,
c'est
non, mais
sûr,
ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ce qu'il demande aussi dans sa
Timothy.
Question. Timothy, c'est.
Qui rejoint par beaucoup de personnes.
Il y a beaucoup de non-gamers qui ont acheté une Wii. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que les gens qui ont acheté une Wii vont acheter une Xbox 360 pour jouer à Kinect ou une PS3 pour jouer à PS Move? Franchement, je pense que non. Je pense que ceux qui sont visés, c'est surtout une partie de la base installée. Kinect veut vendre 5 millions, c'est ça, de
décibels.
Voilà, ça représente un peu plus de 10% de la base installée de consoles.
Pour l'instant, ils en ont vendu 500 000 aux États-Unis.
Est-ce qu'ils vont vendre beaucoup de consoles? Ils le souhaitent, j'imagine, mais je pense pas que ce sera colossal, quoi. Le nombre de nouveaux joueurs.
Moi, Microsoft, je pense qu'ils visent vraiment des nouveaux joueurs. Hein.
Oui, mais je pense pas qu'ils les trouvent.
Des nouveaux joueurs qui n'avaient
pas
avant.
Xbox pour l'instant.
Oui, oui, d'accord.
En tout cas, ça sera pas colossal, quoi.
En tout cas, je pense que. Enfin, ça, c'est mon avis perso, mais je pense qu'il est urgent d'attendre. Parce que je crois que vraiment, et le PS Move et Kinect, c'est surtout pour Microsoft et Sony l'ambition de ne pas être absent de ce marché des motion controllers. De s'entraîner quelque peu pour la génération suivante qui, définitivement, va aussi jouer, là, que ce soit du côté de Nintendo, Sony ou Microsoft, sur ce marché-là et sur ce style de jeu-là, mais plus abouti, plus. On sait déjà que Microsoft travaille sur Kinect 2.
Alors, du coup, est-ce que ça sera compatible
directement
avec,
les consoles prochaines.
Mais t'as dit le mot magique aussi, t'as dit les jeux, c'est ça aussi la vraie question. Ouais. C'est les jeux qui vont arriver après, parce que moi j'ai pas finalement trop l'idée de ce qu'il va y avoir derrière qui exploite Kinect et PS Move. Il y en a pas, enfin tu vois, j'en ai pas vu.
Il y a une toute petite liste, ouais.
Et ouais, c'est très petit, quoi.
Moi je suis curieux de voir aussi au Japon comment Kinect va fonctionner, parce que d'une part il y a beaucoup de jeux japonais qui sortent, par contre ils ont juste super pas de place au Japon. Non. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont faire.
C'est sûr.
Bon, enfin en même temps, le marché japonais pour la Xbox.
Les jeux les plus gamers annoncés sur Kinect, ils viennent du côté du Japon.
Qui cherchent à aller en Occident.
Tout de suite non plus.
Ils sont pas pour tout de suite non plus, ça sera pour l'année prochaine, voilà.
C'est là Kinect n'aura plus besoin que d'un mètre devant la télé.
Mais j'ai l'impression que les Japonais envisagent Kinect comme un cheval de Troie pour eux, pour toucher le marché occidental aussi. Ce qui est un peu bizarre. Enfin, si les Japonais pensent que nous on va aimer Kinect ou machin, je sais pas.
En tout cas, très clairement, Timothy, et puis pour nombreux qui avaient posé la question, vous voyez, on reste quand même assez prudent hein, sur les motion controllers. Et c'est vrai que, pour répondre à ta question, quelles chances ont-elles? La Wii s'est déjà bien implantée dans les esprits, c'est un fait. Elle est passée avant, elle a raflé la mise sur cette génération-là. Et maintenant, pour reproduire un succès tel, il va falloir innover, être ultra pertinent et sur les jeux et sur la technologie.
Et compétitif
et
en termes de
la génération suivante.
Ça, voilà. D'ailleurs, je suis très impatient de voir comment Nintendo de son côté va innover sur la génération suivante, parce que ça va être déterminant.
Je me demande s'ils attendent pas que les autres se plantent, tu vois, pour sortir leur truc derrière, pour enfoncer le clou avec un nouveau truc, tu vois.
Ouais.
Ils attendent que ça
peut-être.
Kinect et VS Move, ils se rendent compte que ça fonctionne pas à ce moment-là. Nintendo sort une nouvelle console avec un truc encore plus incroyable.
La question,
là, ils achèvent tout le monde.
Est-ce qu'ils vont attendre la fin des générations, donc des consoles HD, pour annoncer leur nouvelle console ou pas?
Moi je pense que ce sera que tu vas se rendre compte que les ventes de PS Move et Kinect décollent pas, quoi.
Rendez-vous à l'E3 prochain.
Ça va être très intéressant,
Parce que ça risque d'être quand même le dernier Noël de la Wii, soyons clairs. Dernier gros Noël, en tout cas. Allez, une nouvelle question, celle de Mortipoil. Alors Mortipoil, on parlait de la HD là il y a quelques instants. Pensez-vous que les beaux jeux en 2D ont encore de l'avenir? Le probablement excellent Donkey Kong Country Returns et le récent Rocket Knight, par exemple, illustrent bien le revival d'anciens succès, mais avec une réalisation 3D parfois minimaliste. Ça coûte moins cher à développer que de la belle 2D. Du coup, on est partagé entre le plaisir de rejouer à des sagas de légende, mais la déception graphique et parfois des simplifications de gameplay. Donkey a désormais des points de vie, par exemple. Sont bien souvent de mise, ce qui nous rend indubitablement nostalgiques des premières années de nos héros. Qu'en pensez-vous, messieurs?
Moi, je me rappelle d'une réflexion. Alors bon, je vais rester dans mon registre baston, tu vois. Mais lorsque j'ai montré Street 4 à un consommateur lambda, je vais dire, enfin, des gens de ma famille... Respect à eux.
Les lambda,
pas mal. Je leur ai montré le jeu et tout. Je leur ai dit c'est en 3D, mais c'est sur un plan 2D. Ils ont dit mais tu m'as dit que c'était un super jeu nouvelle génération, mais c'était sur un plan 2D. Et... En fait, c'est un vieux jeu pour moi. Donc tu vois, c'est pas forcément
la réalisation elle-même qui.
Voilà, exactement. Donc c'est pas. Enfin, ils étaient vraiment déçus, quoi. C'est pas l'avenir. C'est vraiment pas l'avenir pour le consommateur classique, je pense. Maintenant.
La 2D.
Ouais.
Les gameplay 2D, donc en l'occurrence.
Ouais, mais pour eux c'était de la... ils faisaient pas la. Enfin voilà, c'était en 2D basta quoi.
Mais à la fois, on voit aussi que par exemple sur les consoles portables comme la DS, la 2D s'épanouit extraordinairement bien et continue à faire des chiffres de vente assez colossaux.
J'irais même plus loin. Tu prends mais c'est encore une fois Nintendo aussi, parce que tu prends un Super Mario Bros. C'est un peu cartonné et c'est un peu de la 2D aussi quand même.
C'est ça. Hein, ça se joue sur un plan. Les professeurs Layton sont en 2D, marchent bien.
Mais les jeux 2D, je pense qu'on les envisageait auparavant, les street, les shoot, tous ces genres-là qui étaient hyper bien représentés à l'époque de la 2D, je pense pas qu'il y ait un avenir commercial phénoménal pour ces jeux-là.
Ça j'ai envie de dire, ça dépend qui le fait. Quand c'est Nintendo qui le fait, par exemple, il y a plus qu'un avenir.
Ça dépend du format.
Vous parliez de New Super Mario Bros.
Mais par exemple, s'ils sortaient un Zelda en 2D,
ce serait plus beau que le Zelda qui se présage là, qui n'est pas très 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 beau.
Mais je les vois pas vraiment atteindre forcément un succès phénoménal avec un Zelda traditionnel en 2D.
Mais,
quoi.
Non, mais parce que mine de rien, effectivement, comme tu le disais avec l'exemple de Street 4, mais des Donkey Kong Country Returns, des Kirby's, Epic Yarn ont un gameplay finalement 2D. Et comme le dit Morty Poil,
ils sont même 2D complètement d'ailleurs pour Kirby. Hein.
Ah bah non. Enfin oui, ouais. Enfin il y a un effet quand même de relief dessus,
ouais,
de texture.
C'est pas de la 3D quoi. Enfin c'est pas.
Mais par exemple pour Donkey Kong, effectivement, on est sur un registre un peu différent. Mais c'est amusant de prendre l'exemple de Donkey Kong parce que déjà sur Super Nintendo, c'était de la 2D sans l'être vraiment, parce qu'il utilisait les Silicon Graphics pour faire des espèces d'effets un peu relief déjà.
Bah en fait,
à l'époque de la Super Nintendo,
il créait des modèles 3D sur Super Graphics.
Il les importait.
Il faisait les animations en 3D. Et après, il crachait les images. Mario Kart aussi a utilisé cette technique pour faire tourner les cartes sur la version N64.
Et puis, on va voir ce que va donner Rayman Origins. Par exemple, qui est typiquement un jeu 2D, mais vraiment de cette génération, avec une excellence graphique, une patte artistique vraiment affirmée, et ce nouveau moteur qui est travaillé chez Ubisoft Montpellier par les équipes de Michel Ancel, et qui vont peut-être donner naissance à aussi pas mal de résurgences de jeux 2D accessibles et faciles à travailler.
On n'est même pas à l'abri, je pense, d'une idée géniale d'un jeu qui ne peut être implémenté qu'en 2D, que tu trouves nulle part ailleurs, et qui est une expérience tellement sensationnelle que, je sais pas, peut-être un truc plus porté sur l'aventure ou le RPG, ou je sais pas. On sait jamais.
En tout cas, ce qui est très clair, c'est que la 2D n'est pas morte, non. Vraiment.
Et, certainement pas dans nos cœurs, en tout cas.
Sur les consoles portables, en plus.
Voilà. Il y a un côté revival, effectivement, et ça dépend du support aussi. Je veux dire, ça passe sur une PlayStation 3, tu vois, le consommateur classique, il va chercher quelque chose en 3D, donc de nouvelle génération. S'il voit quelque chose en 2D, ça va un petit peu le faire reculer. Alors que sur une DS, ça s'y prête beaucoup mieux.
Alors sur la 3DS, c'est pas gagné que la 2D soit la grande gagnante. Hein, sur le relief.
C'est pas. Ouais. Ouais, enfin bon.
On va voir, hein. Mais en tout cas, t'auras compris que, ici à la rédaction de Gameblog, bien sûr, la 2D reste chère à notre cœur.
Un petit peu Mario 3DS.
Et même dans l'absolu, la 2D n'est clairement pas morte. Elle marche encore,
pas.
Il y a des jeux qui marchent.
On en a pas eu. Enfin, je veux dire, on en a eu beaucoup cette année, par exemple, que ce soit sur le Xbox Live, le PSN et dans des tas d'autres jeux. J'ai l'impression qu'on est quand même. Le jeu vidéo, c'est encore un média tout jeune, on le sait. Et là, on est dans une espèce de période assez bouillonnante, je trouve, où il y a plein d'idées qui reviennent, qui repartent, qui sont retravaillées. On est encore en plein dans toujours dans la recherche de nouveaux concepts, etc. Et que ces vieilles technologies désuètes ne sont pas si désuètes que ça et peuvent être réutilisées.
Ça fonctionne toujours bien, un jeu de plateforme en 2D. Hein.
Exactement. Et puis, regarde, l'un des jeux événements du mois dernier, c'était Super Meat Boy sur le Xbox Live. Ouais.
Limbo auparavant, qui est en 2D aussi.
En 2D, Braid. On va pas dire que c'est de la 3D.
Et puis donc il y a plein d'exemples sur Wii. Muramasa, on avait c'est un super jeu, super classe. Il y a encore de la place.
Mais c'est vrai que tout ça c'est pas des jeux qui vont faire des cartons à la Modern Warfare, quoi.
Non,
ça c'est clair.
Exactement. Voilà.
Non, c'est vrai.
Au moment où tu prends l'exemple de certaines séries, tant qu'elles sont pas, elles n'ont pas fait un carton en 3D, elles sont toujours considérées comme plus légitimes en 2D, tu vois. Donc tant que, par exemple pour Zelda, moi ça me ferait vraiment bizarre aujourd'hui de repasser sur un Zelda
en 2D, ouais.
Ouais, alors que parce que je sais qu'il y a eu de très bons épisodes 3D, tu vois, ça aurait pas été le cas, j'aurais dit bah vivement un retour à la 2D.
Mais pourtant, il y a déjà eu des Zelda en 2D qui sont sortis après son avènement en 3D, je pense à Minish Cap par exemple ou à d'autres qui fonctionnaient bien.
Support là aussi.
Oui, bien sûr, oui, mais ça fonctionnait quand même.
Et pour conclure, l'histoire est un éternel recommencement toujours. Et regardez, même Disney qui au cinéma ne faisait plus de dessins animés en 2D traditionnels parce que c'était l'avènement de la 3D, revient au dessin animé en 2D. Donc,
parce qu'il y a une demande,
exactement,
les gens aiment ça, hein, la 2D.
Aujourd'hui, on peut avoir des jeux 2D absolument magnifiques. L'exemple que donnait Julo Muramasa en est un exemple très concret.
Il y a un autre truc aussi, juste dans sa question, il a dit que les jeux en 3D coûtait moins cher à développer que de la belle 2D, c'est pas forcément le cas. Hein. Rayman Origins, c'est pas beaucoup de personnes, ça coûte pas non plus très cher à produire, et tu peux faire
de
des
baston,
choses.
Mais c'est de la 2D.
Pour un jeu de baston, oui. Ben oui.
Rayman Origins.
J'ai compris à l'envers encore.
Oui. Et qu'un jeu 2D, ça coûte moins cher qu'un jeu 3D. En gros, ce qui est assez vrai quand même, globalement.
Non, ce qu'il dit, mais avec une réalisation 3D parfois minimaliste, ça coûte moins cher à développer que de la belle 2D. Donc la belle 2D coûte plus cher que la 3D, c'est ça qu'il veut dire, non?
Oui.
D'accord, donc j'avais bien compris.
D'accord, donc sur un petit jeu 3D.
Attends, qui est-ce qui sait lire la rédaction?
La 3D,
on
va mettre en gros, un jeu 3D reste le plus compliqué, sauf les petits jeux ratés en 3D. Voilà, effectivement. C'est certain.
Non, mais du coup, ça veut dire compliqué, hein, les jeux artistes.
Oui, 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 bon, ça d'accord, mais c'est une exception.
Avec les animations et tout ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que juste un truc, c'est que il y a aussi une segmentation énorme du marché qui fait qu'il y a le jeu indie, etc., qui revient et qu'il suffit aussi parfois pour beaucoup de studios que le jeu soit rentable, ce qui est quand même vachement important. Et donc, il peut y avoir des jeux 2D qui vivent et qui continuent à avoir des suites et qu'il ne faut pas croire que la 2D va mourir quoi qu'il arrive. Voilà.
Non. Allez, nouvelle question. Gilman, lorsque les développeurs disent que les jeux vidéo sont longs à faire et que les coûts de développement restent importants, ils sont de plus en plus à penser qu'il faudra à l'avenir proposer des jeux sous forme d'épisodes. Qu'en pensez-vous? Est-ce là l'avenir du jeu vidéo désormais?
Ah, c'est pas forcément par épisode, hein.
Enfin, moi j'ai pensé à un jeu en 16 épisodes.
Ouais.
Je vois. Dans le premier
non, c'est 11 épisodes maintenant.
Et maintenant c'est 11 épisodes. Là, voilà, c'était ma référence.
On revient un petit peu parce que effectivement, c'est des propos qui ont été énoncés récemment par
Rasuriya,
creative director
de Radia Down, ouais.
Exactement, dans les God of War par exemple, mais aussi Christophe Balestra chez Naughty Dog, ouais. Dans les vidéos que vous avez pu voir sur gameblog.fr. Mais c'est vrai que c'est une.
Mais on en a parlé aussi avec d'autres. Ouais, 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 ils sont enfin, on va pas dire qu'ils sont nombreux, mais il y en a plusieurs de grands développeurs qui sont en plus habitués aux productions de grande envergure, qui aimeraient pouvoir faire des jeux moins chers, beaucoup plus courts, pas forcément par épisode, mais effectivement des jeux de 2 heures, 3 heures, des trucs comme ça. Et personnellement,
deux fois moins qu'à Call of Duty, hein, absolu.
C'est vrai, mais c'est sans multi en l'occurrence. Mais
et à la base, Alan Wake, il voulait faire beaucoup plus de DLC aussi, non? Rajouter.
Non, mais pour ça, il aurait fallu que ça marche.
Il aurait fallu que ça marche. Ouais. Mais dans l'idée aussi, c'est vrai que eux aussi, ils voulaient faire ça, quoi. Et c'est, moi je trouve que c'est une bonne solution.
Mais oui, moi je trouve ça génial, moi.
Ça, alors, tester le marché, ouais. Aussi, hein. Ça permet de voir si ça fonctionne et pardon. Ça permet de voir si ça fonctionne avant de.
Le problème, c'est que sur console.
Dire financièrement pour pouvoir.
Sur console, on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple sur console de trucs qui marchent.
Parce que ça, c'est un peu flippant. Parce que du coup, et c'est un petit peu ce qui revenait dans les histoires des démos plus d'Electronic Arts, etc. Oui. En gros, on vous fait un jeu, on vous donne une démo qui dure 2-3 heures. Bon, s'il y en a suffisamment qu'achète, on développe vraiment le jeu.
Ouais, c'est ça qui les intéresse.
Moi, ça me fait pas flipper, moi.
Ouais, bah, et pour Julo, voilà, chez nous, tu vois,
dire, imagine, toi, ils sont dans l'idée de faire une grande saga.
Mais c'est parce qu'ils ont déjà fait. Non, mais ça me fait pas flipper, je veux dire.
Ils te laissent au bord du chemin après.
Si tu dois payer, je sais pas, 5 euros pour 3 heures de jeu d'un jeu qui, s'il a du succès, aura de la suite et sera redéveloppé, etc., machin, bah très bien. Si ça te plaît pas, bah t'as pas perdu tant d'argent, t'as pas perdu tant de temps non plus. Et finalement, ça c'est quand même mieux que de te taper un jeu à 50, 60 ou 70 euros qui finalement t'a déçu, et voilà.
Mais pour répondre à la question de Gilman, je pense que c'est l'un des avenirs, mais c'est pas l'avenir du jeu vidéo.
Ouais, effectivement.
C'est une des voies que certains développeurs effectivement essayent de travailler.
Et puis, ça existe déjà de manière très formelle avec les Sam & Max, etc.
Et ça fonctionne.
Et ça marche bien, apparemment. Mmh. Mais c'est le monde du PC, là.
Ouais,
aussi,
c'est pas tout à fait le même public non plus, c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure après Mimi, qu'il n'y a pas vraiment eu d'exemple très probant économiquement sur console pour l'instant. Bah alors
c'est d'ailleurs pour en parler, quand on a parlé avec Roux et avec Christophe, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que justement leur démarche actuellement, c'est d'essayer entre guillemets un peu de convaincre les éditeurs de prendre ces risques là, de leur laisser la possibilité au moins de tester le marché en se lançant dans un ou deux titres comme ça, peut-être plus ramassés dans leur contenu, mais peut-être plus fort aussi au niveau de, je sais pas, émotionnellement, narrativement, au niveau du gameplay, enfin une expérience forte, quoi.
Mais suivre. Apparemment, c'est vraiment les éditeurs qui freinent, et pas les développeurs.
Ils ont peur, en fait, de l'accueil du public, des joueurs, de vous, finalement.
Mais c'est vrai que quand tu regardes, il y a encore énormément de joueurs, et voire de journalistes et de critiques, qui attachent une telle importance
à la durée de vie,
comparativement à la qualité de l'expérience, que je peux comprendre qu'ils soient un peu terrorisés, les éditeurs. Donc, bon.
Et on ne vous répétera jamais assez que ce qui est important, c'est l'expérience de jeu, ce que vous en ressentez plus que finalement la durée de vie, même si on le sait, les jeux aujourd'hui coûtent cher, il y a quand même de nombreux moyens de les avoir à moins cher. Moi je le vois maintenant, on a avec la boutique Gameblog sur chacune des fiches jeux, on peut acheter ou réserver les jeux. Allez juste voir des jeux qui ont 6 mois dans les fiches jeux, vous allez vous rendre compte de certains qui coûtent moins de 10 euros neuf. Donc franchement, parfois il s'agit juste d'être un tout petit peu patient, peut-être effectivement en décalage avec
je crois pas que ce soit une qualité du gamer, la patience,
c'est certain,
malheureusement.
Mais il y a tellement de jeux aujourd'hui, nous on le voit même, réussir à finir l'intégralité des jeux auxquels on a envie de jouer, c'est compliqué. Parfois franchement, attendez allez, 3 mois, finissez bien, faites tous les succès, etc., des jeux que vous avez. Vous attendez 3 mois, vous regardez, le jeu, il a perdu, mais 2 fois sa valeur, quoi.
Ah oui, oui,
donc
oui,
on
c'est
peut réussir
bannir,
à s'en sortir pas si mal, quand même, aujourd'hui. Il suffit d'être un peu malin et patient.
Ça fait penser aussi au syndrome série, parce que c'est vrai qu'on est tous ici amateurs de série. C'est vrai que moi, quand j'ai mon épisode qui se termine et qu'il y a mon cliffhanger, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y aller. C'est vrai que ça peut peut-être fonctionner aussi là-dessus.
Oui, bien sûr, créer une dynamique. En fait.
Voilà. Bah, c'est l'une des forces d'Alan Wake, d'ailleurs. Allez, on passe à une nouvelle question, celle de Sebel Caribou. Alors, ne pensez-vous pas que sur cette génération, les développeurs ont tendance à créer des jeux cross-genre avec des lacunes dans tous les domaines de gameplay, tandis qu'avant, les jeux avaient tendance à n'appartenir qu'à un genre, mais à le faire bien?
Alors non, il y en avait plein qui le faisaient mal. ça les a pas aidés.
C'est très juste.
Donc, bon, mais ceci dit, c'est vrai que les gameplays, enfin, on a régulièrement cette discussion et ces problèmes, parce que vous savez qu'il y a des tags sur tous les jeux qu'on met sur Gameblog, et souvent on met des tags de genre, qui sont soit l'atmosphère dans laquelle ça se passe, je sais pas, Seconde Guerre mondiale, Renaissance, tout ça, ou voilà, action, aventure, machin. Et à chaque fois, c'est la galère parce qu'il y a plein de jeux qu'on peut pas classer facilement, quoi.
Et souvent, on s'engueule, hein, nous tous, là. Ouais. On se dit, mais non, mais c'est pas mon sens de l'aventure. Mais oui, mais c'est de l'action-aventure. Mais
vous,
non, c'est l'action.
Vous vous rappelez de ce podcast justement sur le genre plateforme est-il mort ou un truc comme ça, où on se rendait compte que finalement, la plateforme, il y avait de moins en moins de jeux, mais finalement, elle était présente dans quasiment tous les jeux.
Ouais, ouais.
Et que c'était les jeux d'action et de plateforme qui s'étaient mélangés avec un peu de RPG à l'intérieur. Enfin, comme il le dit, hein, cross-genre, comme ça.
C'est vrai.
Je crois quand même que c'est un petit peu aller vite, comme tu le disais, de penser qu'avant c'était super et qu'aujourd'hui c'est que de la merde. C'est quand même un petit peu plus contrasté que ça.
Mais c'est vrai que c'est plus facile de maîtriser peu de mécaniques très bien que beaucoup de mécaniques très bien. Ceci dit, moi je trouve qu'il y a des jeux qui le font quand même plutôt bien. Je sais pas, je pense à Assassin's Creed là, comme par hasard, qui est un peu genre super plateforme quand même aussi, même si c'est pas non plus de l'habileté façon plateforme traditionnelle, parce qu'il suffit de laisser les boutons appuyer. Mais ils s'en sortent bien. Et puis heureusement que le jeu essaye d'agglomérer plein de sortes de mécaniques différentes pour nous permettre de faire de plus en plus de choses au sein d'une même aventure.
Une preuve de maturité en fait. Voilà, à l'époque on faisait que on restait fixé sur une mécanique de jeu, etc. Aujourd'hui, quand on joue un jeu, on aime bien être surpris par le jeu, avoir des phases différentes, des moments qui nous surprennent tout simplement.
Puis au tout début, il y avait qu'un seul bouton. On pouvait pas faire grand chose avec ça.
C'est vrai aussi qu'il y a des moments où tu te dis tiens, il y a cet aspect-là, cet aspect plateforme, exploration, enfin tout ça. Puis il y a des moments où tu te dis tiens, ce truc-là me surprend. Puis en fait, tu l'as qu'une fois dans un jeu. Ça m'est arrivé aussi dans pas mal de titres. Et c'est vrai que c'est vachement frustrant, quoi. Et surtout d'autant plus si c'est mal fait ou tu vois.
Bah, si c'est mal fait.
Vouloir en rajouter trop sans bien le maîtriser.
Voilà. Ou admettons l'inverse, le truc est super bien fait, mais t'as juste une séquence dans le jeu, quoi. Par exemple, voilà, une des séquences d'un slave, j'ai trouvé super, je l'ai vu une fois, elle dure 15 secondes.
Mais à la fois, c'est de la générosité, justement. Ils ont donné un truc.
Pas assez, moi j'ai trouvé, il fallait donner plus. Enfin, tu vois, donc il y a quand même ce côté frustration.
Bah après, c'est une question d'équilibre aussi, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux très mis en scène qui font usage d'une ou deux scènes très particulières avec des mécaniques très particulières qui sont jouées une fois et puis basta. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça si elle est réussie, justement.
Et puis, quelque part, c'est un peu le sens de la vie. C'est comme quand on apprend à parler, au début, on maîtrise un mot. Papa, maman, on le répète 10 000 fois. Après, on apprend, on met des coordinations, puis après, on commence à faire des phrases, et après, on dialogue avec les
papa
gens.
Papa est un con.
Non, mais voilà,
un autre mot séminaire.
Non, mais voilà, c'est comme tout, quoi. Au début, les jeux vidéo, ça s'appelait Cars, Shoot, machin. Maintenant, bah, ça essaye d'en faire des expériences beaucoup plus riches, voilà. D'agglomérer tout
c'est
ça.
Ce que je disais, c'est une question de maturité, en fait. Voilà.
Donc, c'est et pas prêt de s'arrêter, en tout cas, dans ce domaine-là.
On parlait de Super Meat Boy il y a 2 secondes. Mécanique simple, on continue à y jouer, ça marche toujours aussi bien, et c'est très raffiné. Donc, il y en a quand même, je veux dire, on les perd pas pour autant.
Allez, nouvelle question. Une question que vous avez été nombreux à nous poser. Là, on va relayer les propos de Auxilion, mais il y a aussi BG Summoner qui en a parlé, et puis d'autres. J'entends souvent parler sur le site ou ailleurs de spéculation sur la date de sortie de la PS4 et de la Xbox 720. Je précise que c'est des noms non définitifs, bien sûr.
Mais PS4, réalité... c'est pas sûr.
Ouais, PS4. Mais en réalité, je ne vois pas ce que la prochaine génération de consoles peut réellement améliorer. Car, niveau graphisme, il y a très peu de jeux qui utilisent pleinement les qualités graphiques des consoles actuelles. Uncharted 2, God of War 3 sous PS3, ouais. Et Gears et Final Fantasy 13 sur 360. FF13. Niveau online, bien que Sony puisse faire mieux, je ne vois pas d'amélioration majeure pour le futur. Ah bah quand même. Enfin bref, ma question est, qu'attendez-vous de la prochaine génération? Moi je ne sais pas trop quoi attendre, à part Nintendo, qui va peut-être encore nous surprendre.
Moi je peux te dire ce que j'attends de la prochaine génération, c'est justement qu'elle donne tort à tout ça. C'est tout.
Va nous surprendre.
Oui voilà, et que finalement on se dise justement qu'est-ce qu'il peut faire de plus, et que finalement il le fasse et qu'on en prenne plein la tronche. Voilà.
Puis
c'est,
encore plein
c'est quoi précisément, c'est technique, c'est visuel, c'est quoi?
Ça peut être tout. Bon, après il y a des sensibilités personnelles. Moi j'attends pas forcément des jeux mille fois plus beaux, je préférerais des jeux plus intelligents avec de l'IA ou de la...
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la prochaine révolution c'est pas plutôt dans le on appelle ça le middleware en fait, il faut qu'ils arrivent quand même à créer des routines d'animation plus en accord avec les graphismes qu'on a aujourd'hui.
Animation et IA.
Voilà, pour moi c'est les deux terrains.
Ouais, mais alors pour le coup
c'est machines actuelles, c'est là où il a raison, elles sont capables de le faire, c'est simplement le middleware qui est passé
capable de le faire, forcément le middleware. Ça prend beaucoup d'énergie aussi, de ressources. Du coup, il faut allouer les choses au bon endroit.
Moi, je pense plutôt que sur. Tout le monde pense que c'est dans deux générations, mais pourquoi ça serait pas sur celle d'après, la fameuse dématérialisation totale, etc.
Mais est-ce que ça va améliorer les jeux, ça?
Bah non, mais ça améliorera la façon dont on les consomme.
Ouais. Et dans les questions un petit peu du même genre, il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient, à votre avis, dans combien de temps elles arrivent, ces prochaines consoles?
Alors,
à mon avis, on n'entendra pas parler sérieusement d'une nouvelle console, et je pense, j'inclus Nintendo là-dedans, pas seulement Sony et Microsoft, avant le 3 prochain au plus tôt, mais vraiment au supra plus tôt.
C'est-à-dire pas suite 2011, suite 2012, tu veux dire?
Non, celui de 2011.
D'accord. Ouais. On va en entendre parler, oui.
Une arrivée des consoles. Hein.
On va en parler un peu plus.
Ça fait 2012-2013 plutôt.
Enfin, pour moi, c'est 2013. Ouais. Ouais. 2013.
Pour moi, le Nintendo va dégainer l'E3 pour une sortie de fin d'année 2011. Prendre petit peu d'avance. Là,
parce que même s'ils font 2012, ils
prendront. Je suis même plus sûr qu'ils fassent ça, sans déconner. Je suis sûr qu'ils. C'est pas une si bonne stratégie, non? Moi je les vois plutôt
mais ça dépend
franchement un peu et...
toi-même tu sais les échos qu'on avait
je
pourquoi
sais.
On avait annoncé
mais
qu'effectivement il y avait
vite.
Cette Wi-Fi qui devait normalement faire une apparition même courte lors de l'E3 dernier. C'était une réalité, c'était des vraies informations qu'on détenait.
Ouais, mais tant que c'est pas présenté, tu sais, ils peuvent repenser.
Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Etc. Bah oui, ils l'avaient prête et ils attendaient.
Aussi, on sait aussi qu'ils sont un peu terrorisés, parce que, et on le sait, que c'était leur dernier gros E3 et c'est pour ça qu'ils mettaient l'accent sur les gamers, sur la Wii, en leur montrant regardez, GoldenEye, Donkey Kong, Epic, Zelda, machin, parce qu'ils savaient que c'était leur dernier Noël et qu'au final, ils se retrouvent un peu entre deux eaux parce qu'il faut se dépêcher avec la prochaine Wii. Pour moi, ils se laissent cette année pour faire bien la 3DS. Et puis deuxième vague, on communique, Noël prochain, bim, c'est la nouvelle Wii. En revanche, je pense qu'effectivement, concernant la PlayStation 4 et la 720, c'est pas avant l'E3 2012 qu'on en entendra parler.
Pour de vrai.
Et parce que là, à l'E3 prochain, Sony sera occupé à vanter les mérites de sa PSP2 et que Microsoft a vanté les mérites de enfin ses jeux un peu à évoluer Kinect. Et qu'il faudra attendre l'année suivante, en 2012, pour une sortie Noël 2012, voire... mars 2013.
Il y a la déferlante 3DS aussi hein, qui fait que à mon avis c'est, ça peut corroborer la stratégie qui fait que ça va être un peu plus loin encore et qu'ils vont repousser enfin, moi je serais peut-être de l'avis de Julo peut-être. Parce que la 3DS ça peut être quelque chose d'énorme quoi, tu vois, commercialement etc. ça va être
commercialement
mais sortie de la DS et sortie de la Wii c'est un an.
Ouais, mais dans ce cas-là, ça remonte, ça nous amène peut-être encore un petit
peu
après.
C'est un an.
Quoi qu'il arrive, quand t'es une boîte comme ça, tu fais pas deux choses en même temps.
Ouais,
en général.
Puis rappelez-vous que la Wii a été annoncée quelque part entre guillemets en deux temps. C'est-à-dire, alors, ils ont d'abord annoncé la console, la révolution, avec des specs, des machins, etc.
Et ils ont annoncé
une fois que la PS3, la Xbox, etc. avaient été annoncées, clairement modélisées, etc. Ils ont annoncé la Wiimote. C'était la deuxième annonce.
Mais le gros problème, c'est
qu'est-ce qu'il va y avoir un truc comme ça avec la prochaine.
Plus de jeux sur Wii, c'est fini. Vraiment, c'est fini. Les développeurs ne veulent plus travailler sur la Wii parce qu'il n'y a plus d'argent à se faire. Nintendo balance toutes ses cartouches là d'ici mars. Ouais. Après, il n'y a plus rien. Donc, tenir un Noël en plus pour la Wii, c'est se tirer une balle. S'ils ont pas de jeu.
Bah oui, mais ceci dit, ils ont tellement de cash là qu'ils peuvent aussi se permettre un an de sabbatique,
de
tu vois. Mais
de disette face.
Non,
parce
qu'ils auront la 3DS. Je pense qu'ils comptent beaucoup sur la 3DS vraiment pour faire le gap
jusqu'à
la suite.
Effectivement, ils laisseraient pas la Wii à l'abandon, mais il y aurait peut-être des solutions à trouver. Mais j'essaie de me mettre dans leur tronche et de me dire, est-ce que c'est pas plus intelligent de leur part d'attendre que les autres annoncent leur console
parce, mais pour moi, ils regardent pas ce que font les autres. Ils s'en foutent.
Que les autres s'inspirent d'eux ensuite, etc. Et loupent pas une deuxième fois le coche comme ça a été le cas sur cette génération, ce qui a permis à Nintendo de gagner, tu vois, à plate couture.
Bah justement, si tu pars un an avant, parce que les autres sont pas prêts hein, et sont pas prêts de partir, ils auront au moins un an d'avance s'ils partent là. Et justement, s'ils ont une bonne technologie, personne va rattraper la 3DS avant un bon bout de temps en termes de 3D.
C'est vrai.
Enfin bon, là, vous le voyez. Hein,
je trouve ça passionnant.
Ouvertes, exactement.
Mmh. Hein. C'est juste un truc, même si on n'attend pas forcément de meilleurs graphismes, à chaque génération, on en prend quand même plein la gueule. C'est-à-dire qu'il y a toujours une marge pour faire nettement mieux.
Mais en fait, à chaque fois, sur chaque génération, on nous dit vous allez jouer à des jeux à la qualité graphique identique à celle des cinématiques de la génération actuelle.
Il n'y a plus de cinématiques quasiment.
Ouais, non, mais attends, il y a quand même des cinématiques. On voit maintenant la différence quand même entre les scènes de gameplay et les cinématiques qui sont parfois mais somptueuses.
Ouais. La cinématique de World of Warcraft, par exemple, si tu joues à ça.
Voilà, si on a ça, en jouant sur la génération d'après, et à chaque fois on se dit ça, on dit mais non, mais c'est pas possible. Finalement, on l'a à chaque fois sur chaque génération.
Mais pour ça, faut acheter des jeux.
Bon graphique.
Parce que ça coûte quand même cher de faire tout ça.
Oui, et puis il faut réviser les méthodes de production, etc.
Tout progresse.
C'est plus compliqué à produire tout ça.
Et ah oui, alors ce qui était intéressant, parce que justement, alors là, juste pour conclure là-dessus, quand j'étais chez Kojima Productions, on avait parlé justement des nouveaux hardware. Alors bien sûr, et pas de révélation fracassante dans ce podcast là maintenant, mais bon, clairement, ils travaillent dessus, ils réfléchissent et tout. Et l'une des choses, ils demandent pas un monstre de puissance en plus, mais par contre des choses qui vont leur permettre justement d'améliorer les capacités de production. C'est-à-dire que si vous mettez plus de puissance, peut-être que ça va pas fondamentalement se voir graphiquement genre x2 etc, mais peut-être que ça va permettre aux développeurs enfin d'être plus souple dans la manière de développer, parce que justement ces prochaines machines, du côté de chez Sony apparemment en tout cas, on est très proche des développeurs pour ne pas rééditer la entre guillemets catastrophe de la PS3 avec une machine tellement complexe à développer qu'il lui faut 2 à 3 ans pour enfin lui sortir un peu quelque chose des tripes, quoi.
Parce qu'effectivement tu peux faire une machine super puissante, mais derrière il faut des gens pour tirer parti de cette puissance et produire des assets avec plus de polygones, des textures encore mieux machin etc. Ça prend juste plus de temps ou plus de gens
et plus d'argent.
Et plus d'argent, donc forcément, et peut-être qu'ils peuvent effectivement rester à des niveaux à peu près vivables, mais permettre de moins optimiser aussi, par exemple, parce que sur les machines aujourd'hui, pour faire des trucs comme tous les titres qui défoncent visuellement etc. en termes de réalisation, il y a beaucoup d'optimisation derrière, il faut avoir de bons codeurs etc. Si t'as une machine qui est très puissante, t'as pas besoin de t'emmerder à optimiser autant pour avoir un jeu qui soit fluide, à peu près propre, etc.
S'il y a pas une grosse innovation, il faut quand même qu'il y ait un bon graphique, il faut qu'il y ait a priori les deux même, mais parce que vous oubliez quand même un truc essentiel, c'est le consommateur, le mec, pour qu'il faut qu'il ait envie d'acheter la
effectivement
la
il faut qu'il y ait un fossé pour lui,
faut
qu'il y ait une différence,
juste du confort pour les développeurs, bien il faut sûr, que sûr. Le mec devant dans le magasin ait envie de l'acheter, tu vois.
À suivre en tout cas, clairement dans l'année à venir on devrait commencer à parler un peu plus concrètement, il devrait avoir des bruits de couloir, même si c'est pas des annonces officielles, mais c'est clair qu'elles vont arriver, des kits ou des infos dans les mains des développeurs. Ils sont déjà dessus, bien sûr, on le sait, hein, puisque
même sans savoir le hardware d'ailleurs, ils s'y mettent, hein, de toute façon. Donc,
c'est clair, on le sait que quasiment au lancement d'une nouvelle console, il y en a certains qui travaillent sur d'autres. Puis on l'a vu, hein, des annonces d'embauche hein, du côté chez Square Enix. Pour des officiellement hein, pour des jeux PS4 et Xbox 720, on sait que du côté de Epic, les mecs de Gears of War, on travaille déjà aussi sur des prochains titres, ils l'ont dit officiellement. Donc voilà, c'est non pas si longtemps que ça non plus. Hein.
Il va être bientôt temps de rejeter un œil du côté du PC aussi, qui lui ne transitionne pas de la même façon et va peut-être nous donner un indice sur ce qu'on pourra avoir à la génération prochaine.
À suivre, c'est passionnant en tout cas. Allez, une nouvelle question, celle de Cortec. Je trouve que depuis l'arrivée de l'Unreal Engine en 2006, énormément de jeux se sont accaparés ce moteur graphique. Non pas l'envie de critiquer le travail d'Epic, mais juste une constatation de sa prédominance sur le marché du jeu d'action. Ne trouvez-vous pas que l'omniprésence de ce moteur graphique rend de plus en plus faible la créativité des développeurs sur le plan technique? Et surtout, ne trouvez-vous pas que les jeux d'action d'aujourd'hui se ressemblent graphiquement de plus en plus du fait d'un coût sûrement moins élevé pour la production du jeu?
C'est vrai que n'importe quel jeu fait avec l'Unreal Engine a souvent quelque chose de clairement identifiable, voilà, qui on sent que c'est de l'Unreal Engine derrière. Maintenant
ça nous a permis aussi d'avoir beaucoup de jeux de haute qualité rapidement.
C'est ça, voilà.
On parlait il y a quelques instants du middleware, ce genre de choses.
Bah c'en est typiquement.
C'en est un, voilà. Et un qui marchait bien et qui claquait d'entrée, quoi.
Oui, et puis il faut dire qu'il y a, tout un. Enfin, Epic est très fort sur ce secteur. Ils ont un bon service pour les développeurs qui prennent l'Unreal Engine 3 derrière. Ça évolue bien. C'est du. Enfin, ils ont fait juste du bon boulot, donc c'est normal. Développer un moteur aujourd'hui de A à Z de cette qualité-là, ça coûte très cher. C'est très long. Ouais, c'est il faut que ça. Parce qu'en plus, il y a le problème du multi-support, c'est-à-dire se cogner l'adaptation d'un moteur graphique
mais
sur
certains,
tous les supports, c'est l'horreur.
Certains le font et préfèrent le faire. Ça a été
de moins en moins.
L'une des raisons du succès d'Assassin's Creed, c'est voilà.
Oui, c'est son moteur. Ouais.
C'est son moteur qui était incroyable pour l'époque, qui a été
sauf sur les cinématiques.
Salut l'étranger.
En louchant totalement.
Bah, ça va, ils se sont bien rattrapés.
Non, mais certains préfèrent.
On dirait Marie-France de qui veut épouser mon fils.
C'est qui ça? C'est la mère.
Je t'ai montré ce midi.
Ah oui.
Je veux épouser mon fils. Dans des belles voitures.
Bah, c'est les cinématiques d'Assassin's Creed 2. Voilà.
Oh putain.
Quelque chose près.
Ah, t'es dur pour qui? Pour Assassin ou.
Pour Marie-France. Ah, d'accord. Non. Je suis pas dur pour Marie-France. Je vous le dis tout de suite. Excusez-moi.
Bah, Assassin's Creed, donc voilà. C'était un exemple de jeu avec un moteur in-house, comme on dit.
Maison.
Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare.
Mais ça brille de la créativité.
Moi je pense pas, hein, parce que regarde, qu'est-ce qui tourne sur l'Unreal Engine par exemple ? Il y a les jeux de 2K Marine, genre Bioshock, Infinite par exemple, le prochain. Alors oui, on pourrait voir que c'est un petit peu l'Unreal Engine, mais enfin.
Unreal 3.
4 hein. Pour le. Enfin, c'est le prochain pour le.
7
pour Infinite, c'est le nouveau jeu qui vient de sortir. Mais peu importe, il y a suffisamment de différenciation artistique en ce qui me concerne, en tous les cas, pour me dire que c'est pas un problème, quoi. Enfin, ça me choque pas plus que ça. De toute façon, après, les techniques, il y a un autre truc aussi qu'il faut voir, c'est que les techniques pour faire de la 3D, d'éclairage, gérer des ombres, etc., il y en a pas non plus 30 milliards, quoi. Donc, il y a des techniques similaires dans beaucoup de moteurs.
Et puis, on parle toujours du jeu vidéo, on va pas le réduire uniquement à sa technique. Il y a quand même ce qu'on ressent, l'aventure qu'on vit, l'ambiance. Voilà, tout ça qui sont
puis
pas
le gameplay,
dictés,
quoi.
Enfin, le gameplay, bien sûr, qui sont pas dictés par un moteur graphique, quoi. Si ça leur permet de gagner du temps, et justement peut-être, moi je trouve que c'est presque un peu l'inverse, on retrouve une patte visuelle, mais par, comme tu le disais finalement, un peu sur l'éclairage, ce genre de choses, mais pas sur, aussi, hein. Pas sur le rendu esthétique.
La direction artistique, ça reste celle du développeur.
Ça leur laisse justement plus de temps de se concentrer moins sur on doit faire un moteur graphique et on y passe beaucoup de temps, chose que vous entendrez très fréquemment chez ceux qui prennent le choix de faire leur propre moteur. Ils ont dit oui, mais on a eu moins de temps, parce que, et dans le 2 ce sera mieux, parce que là on aura plus le temps en fait, de se mettre sur les textures. Etc. Donc,
La créativité est ailleurs, c'est ça que tu veux dire.
C'est ça.
Ok.
Après, il y a d'autres.
Je le crois.
Il y a toujours d'autres possibilités. Hein. Tu peux avoir les gens de l'équipe de Beda, par exemple, qui va passer 6 ans pour un
c'est
moteur
ça.
D'animation.
Ça a l'air magnifique. Hein,
non, mais ça défonce la gueule. Je veux dire, c'est en animation, ils mettent leur mère à tout le monde.
Ça, tu peux le faire uniquement parce que derrière, t'as Sony qui te fait confiance et qui te soutient.
Exactement. Donc, surveillez bien Last Guardian, parce que des jeux comme ça, vous en aurez pas des masses.
Eh bien, merci Raon.
Je t'en prie.
Qui veut épouiller Raon?
Alors.
Allez. Maman.
Maman. Marie-France. Tu es dégueulasse. Mais tu es très sympathique. Ouais. Allez, on va pas. Non, même pas. On va passer aux questions qui concernent un peu plus directement la rédaction de Gameblog. Et on va commencer, débuter avec celle de Kane 2097.
Gros poster.
Exactement. Ouais. Question intéressante. Hein. Quelle est la séquence la plus difficile? Celle qui vous a le plus dérangé, perturbé dans un jeu vidéo.
Il parle ludiquement ou par son contenu?
Je suis pas sûr. Quand il dit perturbé, dérangé,
on va répondre aux deux.
On parle de malaise
aussi, parce que
là c'est vraiment de ressenti. Ouais. Celle qui vous a dérangé.
Parce que moi c'est simple, hein, c'est.
Ouais, mais difficile, genre. Ouais. C'est dur.
Si c'est la plus difficile à jouer, ça va être Turok, la scène du Pterodactyl. Qui, ça c'est juste voilà, j'en fais encore des cauchemars. Et la plus perturbante, pour moi, je pense que ça va être si je recherche dans mes souvenirs récents, ça va plutôt être Modern Warfare 2,
l'aéroport
voilà, qui était vraiment gratiné celle-là. Ouais. Ouais.
Mais qui était passionnante parce que moi, par exemple, on n'était pas d'accord avec Raon, mais vraiment cette scène m'a choqué et au début j'y voyais vraiment quelque chose d'abject juste pour faire parler du jeu, etc. Et c'est vrai que t'étais pas d'accord et que en discutant vraiment, j'ai trouvé qu'en fait elle avait une portée incroyable de choix du joueur et de différenciation entre les autres médias et le jeu vidéo, quoi.
Et que le simple fait qu'on en parle justement montrait brillant. Son utilité. Bon après effectivement c'est aussi très simple, très sympa au niveau marketing. Hein, voilà. Mais c'est vrai que t'as pas encore fini Black Ops d'ailleurs, mais tu vas voir que c'est un des trucs par exemple qui manque à Black Ops. Voilà, c'est un moment de choix comme ça.
Donc pour toi, hein, c'est cette séquence de Call of Duty, messieurs. Mimique.
Moi, j'essaie de rechercher un petit peu. C'est Silent Hill, le tout premier. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai même pas trop joué au suivant. Et je me suis même quasiment arrêté de jouer. Ça m'a vraiment fait peur. Ouais. C'est-à-dire que je me rappelle du héros qui arrive dans un endroit où a passé un serial killer a passé un certain temps. Et le mec a marqué des trucs sur les murs.
Avec des papillons qui sont punaisés au mur, sur des murs
et
en bois.
Et là, c'est juste, ça m'a fait flipper en fait. Vraiment. Et j'étais.
C'est con, c'était la fin du jeu quasiment.
Tellement mal à l'aise qu'en fait, j'en ai même lâché la manette. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est un truc qui m'a fait. Je sais pas ce que ça m'a rappelé, parce que ça m'a rappelé quelque chose ou j'en sais rien, tu vois. Non, mais
quand
ça
tu étais séquestré jeune.
Non, mais ça m'a choqué, tu vois, autant Resident Evil, tout ça, machin. Bon, voilà. Ça m'a. Il y avait quelque chose de proche de la réalité, où un type comme ça aurait pu exister. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs et.
Ça t'a rappelé la maison de Marie Crin.
Voilà, c'est ça.
Oh mon dieu, on va s'attaper jusqu'à la fin du podcast.
Julo.
Alors, je voudrais pas être sur le registre de la peur, etc. Parce que, effectivement, je citerai Project Zero et je saurais pas trop quelle scène. Mais en fait, au niveau du dérangement, plus de la fin du questionnement et de. du malaise un petit peu face à un choix, etc. Je pense à Heavy Rain là. Et pareil dans différents passages.
Il y a aussi, la scène où il se coupe
les yeux, les oreilles si vous ne l'avez pas fait encore, parce que là on est obligé un petit peu de.
La scène, la scène probablement... où tu te coupes le doigt, moi elle m'a beaucoup.
Oui, alors comment tu vas te couper le doigt? Je trouve que c'est même pas le pire. Il y a pire que ça, quoi. Oui, il y a le poison. Il y a mais même des scènes parfaitement anodines comme avec lequel de tes deux enfants vas-tu jouer dans la première scène. Là, par exemple, j'ai trouvé ça perturbant. Parce que ça m'a renvoyé à des trucs et tout.
Comme si t'avais deux enfants.
Voilà.
Papa, joue avec moi.
Non, avec moi.
Attends, deux secondes, je fais mon QTE.
Papa, c'est un QTE. Oui, c'est
ça. Non, mais probablement Heavy Rain pour différentes scènes. Ça peut-être celle-là.
Non, c'est vrai.
Voilà, celle-là me fait...
Julien.
Et ben moi, ce serait dans Silent Hill 3, qui est pas le meilleur des Silent Hill, mais qui est pas non plus un mauvais Silent Hill. Il y a une scène que je trouve incroyable. On rentre dans une pièce, il y a rien, alors que vraiment on est dans un moment d'agitation totale, les murs sont espèce de cramoisi vivant avec des trucs qui apparaissent comme ça, des textures qui sont comme du sang qui se met sur. Puis on rentre là-dedans, puis il y a plus de bruit, il y a plus rien, et il y a un grand miroir en face de soi. Donc ça on respire et tout, on est bien. Et puis moi j'y jouais au casque vraiment la nuit, et puis là on commence à avoir une espèce de bruit de comme si, vous savez, dans vos robinets, comme s'il y a de l'eau qui a du mal à passer, comme ça. Et puis il y a un robinet justement dans cette pièce, et de ce robinet commencent à sortir des espèces de filaments noirs qui sortent, mais qui ne sortent que dans, qu'on voit que dans la glace, et on les voit commencer à monter, remplir la pièce avec le bruit qui devient de plus en plus assourdissant, et on le voit monter sur le personnage, sur soi, mais juste en transparence dans la glace. Et puis moi j'étais là hypnotisé par le truc, je fais mais qu'est-ce que je fais, je me cache, je me casse pas. Puis quand tu bouges de plus en plus lentement, et j'ai été pris de panique, mais vraiment j'ai fait je suis sorti comme ça.
T'es sorti de chez toi?
Mais non, mais je suis sorti de la pièce. Et puis j'ai dit mais merde, ça se trouve fallait rester, ou il y avait peut-être un truc. Je suis re-rentré, plus rien, jamais. Il y avait plus rien, il se passe plus rien. J'ai relancé ma sauvegarde, et là je suis resté jusqu'au bout, et en fait tu meurs parce que les filaments noirs rentrent dans ta bouche, etc. Et j'ai trouvé ça, mais
c'est génial. Hein.
Ah, j'étais
alors
pas
là,
bien.
Ce que tu viens de me raconter me scotche complètement.
Ouais, c'était fantastique. Ah bah YouTube, vous pouvez aller la voir. Alors bon, YouTube, ça rend pas exactement le même ressenti, mais il faut voir le contexte où vraiment t'es perturbé depuis
c'est
une heure,
troisième,
deux heures,
c'est l'entier,
dans trois heures, ouais. Dans le troisième. Ouais. Je vous le montrerai tout
quelle
à l'heure.
Quelle putain d'idée. Ouais.
Vous pourrez le voir. Je le mettrai peut-être
mais
dans.
C'est pas celui que t'avais pas aimé, le 3.
Je l'ai moins aimé parce que le 2 est tellement prodigieux que venir derrière c'est dur. Mais c'est non.
Ah non, c'est le 4 qui était vraiment
qui est pas bien.
Mauvais.
Oui, c'est ça. Voilà, j'espère qu'on a répondu un peu à ta question, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Oui, mais c'est vrai que
je pensais à d'autres trucs aussi là.
On se rend compte quand même qu'on a cité des jeux assez récents finalement. C'est ça aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'était mieux avant. Le jeu vidéo aussi permet de
d'aller
balancer
plus loin,
des émotions de plus en plus fortes quand même ces dernières années,
même si c'est toujours un peu le même registre, mais
c'est sûr. Allez, une question, alors là ça va être un peu compliqué, je suis désolé, de Ni4VU4G.
T'as pas fait d'effort non plus, hein.
Voilà, Ni4VU4G.
Les 4, c'est des A.
Non.
Non.
Bon, je sais pas quoi. Et Oxydam. Ouais. Si on trouve à la fin du podcast, on vous rappelle. J'aurais aimé savoir pour la base de données si vous ne pouviez pas confier ou l'enrichir à quelques membres de Gameblog ou trouver une solution. Parce que ces derniers temps, tous les jeux signalés dans le forum jeux absents de la base de données n'ont pas du tout été rajoutés à la base de données. Et vu que quelques-uns des membres de Gameblog veulent bien se charger de cette tâche, dont moi, ce serait cool. Et
alors, écoute, envoie-nous ton numéro de téléphone. Alors,
on a trouvé une solution. Il faut savoir que c'est Tiger Suplex qui s'occupe de la base de données chez nous à Gameblog. Ce qu'on a dit avec Tiger, c'est alors effectivement amende honorable de la part de Tiger. Vous le voyez, hein, quand même énormément de tests, de news, etc. Et c'est vrai que sur les jeux dans cette base de données là, qui sont des jeux essentiellement rétro, on les a un petit peu délaissés. C'est pas bien. On va revenir dessus. Envoyez-lui un mail à chaque fois quand vous voyez un jeu qui vous intéresse et que vous voudriez l'ajouter à votre collection de jeux et qu'il est absent de la base de données de Gameblog, avec la jaquette et les dates de préférence, avec un petit message
ça
Tiger,
lui permettra,
trop cool. Et comme ça, il va essayer de les mettre au plus vite directement, et il passera beaucoup plus souvent dans la zone forum où vous pouvez ajouter ces jeux qui vous manquent dans la base de données. On va essayer petit à petit de se mettre à jour.
Et cela dit, il n'empêche qu'on réfléchit tout de même à un moyen, parce qu'effectivement, envoyer un mail, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, bien que ce soit quand même
on
pas compliqué.
On rappelle, c'est Tiger Suplex.
Alors, TIGERSUPLEX @gameblog.fr.
Facile.
Et donc on songe à trouver un moyen plus pratique pour l'utilisateur que vous êtes,
ça sera
probablement, de proposer des choses, etc.
Ça sera probablement en deux temps. Il y aura déjà des outils, au moins ne serait-ce que pour soulever éventuellement des erreurs aussi, parce qu'il peut y en avoir, ou des manques. Et puis par la suite, peut-être effectivement, si on trouve le bon moyen de le faire, pour que ça soit simple et pour vous et pour nous.
Et que ça rajoute pas des erreurs.
Voilà. À ce moment-là, oui, mais effectivement, on en a bien entendu conscience. Oui.
Et puis Gameblog est un site qui avance petit à petit, l'oiseau fait son nid, et vraiment, même si parfois vous avez l'impression que les choses mettent du temps, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui se font.
Et si Mister P a les cheveux longs, c'est bien parce qu'il n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur, donc c'est ça, qu'il travaille
exactement.
Beaucoup.
T'as eu le temps, toi? Ouais, c'est l'année dernière. L'année dernière, il y a eu un jour de congé l'année dernière, il en a profité pour aller chez Coutif. Voilà, on vous écoute en tout cas, et vraiment on va essayer d'améliorer ce genre de choses très clairement. Allez, nouvelle question de Petit Prince. Une question: quel est le podcast le plus téléchargé écouté de l'histoire ever of gameblog.fr? Et ben c'est simple, on a la réponse. C'était en juillet 2009, à l'été, un podcast qui est resté tout l'été, du coup forcément il a pu être un peu plus cliqué, mais c'était un podcast sympa. C'était le podcast 108 avec nos amis de Pixel Love. Il s'agissait des 2 ans de Pixel Love. Voilà.
Ouais.
Tu as ta réponse, Petit Prince.
Faut dire qu'il était gratiné, celui-là. Hein.
Il était pas mal. Mm. Et puis il y avait aussi
il y avait de la déclaration en choc dedans.
Ouais.
Ah putain, c'est le qui a les oreilles, elle siffle encore.
Monsieur Michel B.
C'est ça.
Si tu nous écoutes.
Blo. Alors, les éditeurs tiers, c'était un... Vous additionnez tous ces mots et puis vous trouvez le nom. Personne m'a compris.
Si. moi, je t'ai suivi.
Très bien. Allez, nouvelle question.
En même temps, je connaissais la réponse. Mais
c'est facile.
Fabien Freeze. Je sais pas trop. Fabien Freeze.
Fries.
Et vous êtes nombreux à nous avoir posé la question. Alors, je crois qu'on va le faire. Et ça m'étonne parce que je croyais qu'on l'avait fait, mais bon.
Ouais.
Un podcast spécial dédié à l'iPhone et l'iPad est-il prévu?
On croyait qu'on avait fait un podcast sur le multijoueur. Alors. T'imagines, le multi, quand même, on l'a raté.
Donc, écoutez,
on peut vous dire que oui, alors quand ça, on verra.
C'est pas prévu, mais effectivement, c'est un sujet qui revient très souvent généralement dans les sujets récap de l'actualité, parce que l'iPhone et l'iPad, en termes de plateforme de jeu, deviennent de plus en plus importantes. Donc on reviendra dessus dans le courant de cette saison de podcast.
Hashtag cut the rope.
C'est pas mal, effectivement. Allez, nouvelle question, celle de Ramzi Alger. J'ai une petite question à vous poser. Avec un R, ça marche aussi. Serait-ce possible que vous intégriez une catégorie vidéo des lecteurs où l'on pourra poster nos propres vidéos tests? Ben ça, c'est pas mal, effectivement. Mais alors déjà en deux temps.
Oui.
Vous pouvez déjà
le faire.
Moi, j'en ai déjà vu. Donc,
c'est ça. En utilisant vos blogs, ouvrir un blog, c'est gratos.
Balancer une vidéo sur YouTube, c'est gratos. Exactement. La mettre sur le blog, c'est easy.
En sachant que les blogs, on vous le rappelle, hein, maintenant on fait régulièrement le top des blogs, il y a le top 50 des blogs. Les blogs sur Gameblog sont extraordinairement bien référencés, et pour vous dire la vérité, parfois même mieux que les sites
souvent même mieux
de Gameblog.fr. C'est complètement incroyable.
Certains d'entre vous ressortent mieux sur Google, voilà, sur une même recherche qu'une news de Gameblog.
Exactement. Donc ça fait vraiment partie. Mauvais. C'est très consulté, donc ça vous donne une vraie visibilité, bien plus que sur certains autres endroits. Vous pouvez mettre des vidéos de test, par exemple. On le voit au nombre de clics. Et puis peut-être que plus tard, on fera une catégorie vidéo de lecteur.
En tous les cas, c'est une partie du site, tout ça, tout ce qui est blog et vos articles et tout ça, qui sera de plus en plus poussé. Ne serait-ce qu'en termes de visibilité, d'outils, de facilité d'accès, etc. Donc,
Il y a une vraie production aussi sur le truc. Moi, je consulte assez régulièrement. Et
moi, c'est la page que je regarde le plus maintenant.
Voilà, et il y a vraiment des gens qui se donnent vraiment du mal. Je voyais l'autre fois un jeune garçon qui a fait des vidéos en facial de lui, tu vois.
jeune garçon en facial.
C'est sûr qu'il allait dire ça. Merde. Attends, je me suis dit, je vais pas m'arrêter. C'est sûr que le Duty.
Il y avait Michael Jackson dans la news.
Non, mais tu vois, j'ai regardé. Mais tout n'était pas parfait, etc. Mais c'était vachement courageux, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, je le mettrais. Qui c'est ce jeune garçon là? Mais voilà.
Des j'aime.
Il y a vraiment des gens qui se donnent du mal.
Mais tu l'as jamais.
Il faut pas hésiter.
Il y a des gens qui se donnent du mal, tu vois. Donc,
bien sûr.
Donc sans, franchement, chapeau. Moi j'ai envie de te dire chapeau. Fallait le faire, chapeau.
Grave, vous le voyez, on passe régulièrement dans les blogs ou dans les articles lecteurs qu'on met aussi parfois en home même du site, dans le fil d'actu à proprement parler. Donc vraiment, on est bluffé souvent de voir la qualité de certains des articles qui sont rédigés. Bravo. Et n'oubliez pas, n'hésitez
super
pas.
Super article sur Shenmue d'ailleurs, très intéressant.
Ça fait trois fois là déjà.
C'est
hein.
Ça, oui, ça commence à faire beaucoup.
Mais
en ce moment, c'est news par jour, donc à la limite, il est lancé, il est chaud.
C'est la période.
Il est décomplexé, comme on dirait dans certains partis politiques. politique. Mais ouais, n'hésitez pas. Et une chose qui est très importante, parce que certains se demandent, ils se disent oui, mais comment faire pour être, pour avoir les chiffres de certains machins. La communication, n'hésitez pas. Vous avez des outils, Facebook, Twitter. Je sais que pour certains, c'est l'horreur, mais ça aide quand même énormément à faire connaître votre blog ou vos écrits et à ramener du monde. N'hésitez pas à vous faire une signature dans les forums, qui vous permet comme ça, à chaque fois que vous répondez dans le forum, de donner une porte d'entrée aux gens et de leur donner
et de la changer souvent aussi.
Voilà. Et n'hésitez pas à faire la propre promotion de vos articles quand vous jugez qu'ils sont bons. Ça, franchement, ça ne peut qu'aider. Voilà. Nouvelle question de Zaliax. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour poser ma question.
La preuve,
non. Et qu'elle n'a pas été déjà posée. T'inquiète, sinon on ne l'aurait pas sélectionné. En regardant les podcasts d'écran.fr sur NoLife, une petite idée toute bête m'a traversé l'esprit. À quand les podcasts Gameblog sur NoLife ? C'est une excellente idée.
Je pense que c'est peut-être un peu chiant, non, pour nous ? De rester tous les quatre comme ça, en face de la caméra, non ?
Pourquoi ?
Je sais pas.
Tu te trouves chiant, toi ?
Écoutez,
moi, je me
on y a
super
pensé, et on va le faire, bien sûr, mais sans Raon.
Ok. On doit d'abord virer Raon, ça va être assez compliqué, hein. Il est là depuis le début.
En termes d'indemnité, ça va être un peu tordu.
Mais une fois que ce sera fait, oui, no life tout de suite.
En tout cas, vous le voyez. Non, non, mais vous le savez qu'on est en très bon terme avec No Life. Ils sont juste en dessous. Voilà, donc on se croise très fréquemment. Il y a le No Life Corner tous les jeudis.
Jeudi.
voilà. Vous vous retrouvez une vidéo de No Life et vous l'avez peut-être vu, mais sur No Life, le site internet, et ben vous avez les news de Gameblog.fr qui sont relayés. Donc vous voyez que on est souvent en contact. Et pour venir vous cacher, il est possible qu'on fasse un petit peu plus de choses prochainement ensemble, puisque on devrait discuter. Voilà. Alors peut-être un podcast, je ne sais pas. À voir.
T'as vu comment on communique par iPhone,
ouais,
là,
bien, t'as vu. Mais en plus, c'est une question qui a été pas mal posée, donc on reviendra peut-être dessus. Autre question, Cyril56. Pensez-vous que le fait de réaliser un blog est un avantage pour obtenir un stage ou un job dans le monde du journalisme aujourd'hui ?
Bah, si ton blog est bon, oui.
Bah, évidemment. Oui.
Bah, oui, ça peut servir, hein, carrément.
De toute façon, tout ce que, voilà, exactement, tout ce que tu produis est un moyen. Bon, alors après, j'imagine qu'il sous-entend le journalisme de jeux vidéo, donc ce qui est déjà un truc un peu particulier. Mais de toute façon, si tu écris ou produis même de la vidéo, d'ailleurs, ça peut être parce que avec le web, il y a plus que l'écrit, il y a plein d'autres choses. Donc oui, bien sûr, ça peut être un avantage. Ça peut aussi être un inconvénient, malheureusement, si tu es mauvais. Mais mais si t'es mauvais, quoi. Donc voilà.
Tu peux même t'améliorer avec les critiques des gens. Qui sont
bah, bien
tellement
sûr.
Délicates.
Oui, mais alors,
non, mais c'est vrai.
Ça.
Piquant et relevé.
Tout à fait raison. C'est un moyen,
voilà,
de s'exercer.
Ça peut être aussi un moyen
de se confronter à la vie des autres.
Tomber sur des gens sympas qui vont te conseiller aussi, tu vois.
Bien sûr.
Mmh. Mais ça arrive aussi, hein.
Moi, je pense que c'est une bonne idée d'ouvrir un blog sur Gameblog.
Et puis c'est aussi une manière de tester votre endurance vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le jeu vidéo, qui se disent
oui,
j'ai envie d'en parler.
Effectivement.
Et quand ils se lancent au quotidien, la passion c'est super. Mais les gens que vous avez ici bossent dans le jeu vidéo depuis plusieurs dizaines d'années. Et mine de rien, on a déjà rencontré dans notre histoire, dans notre cursus, des gens plein d'envie, plein
d'adorants, sont morts,
etc. Et qui, au bout de deux mois, se rendent compte que finalement, bah, putain, tous les jours, il faut en parler. Tous les jours, finalement, tester un jeu, c'est moins drôle qu'y jouer juste pour son propre plaisir, etc. Donc c'est un bon moyen, de vous faire la main, parce que finalement, c'est un entraînement, etc., de voir un petit peu les erreurs à faire. Et puis voir aussi si... Bah, deux mois, trois mois après, au quotidien, être plongé dedans, si ça vous plaît toujours autant ou si finalement vous préférez pas, bah, juste être joueur passionné et plutôt que intervenant directement.
Donc ça permet de tester ses compétences et son courage.
Exactement.
Voilà. C'est ça, mais tu disais que, nous, ça fait déjà longtemps qu'on en parle, etc. Ok, mais il y a même encore aujourd'hui, moi, il y a des fois où j'ai du mal. Et où les gars, je vous parle là ?
Oui, bien sûr. Non, on règle l'histoire.
Mais laissez mon iPhone tranquille, c'est mon idée.
Oui, non, c'était rigolo comme idée, ton post-it digital.
Donc voilà, donc il y a des fois où effectivement, moi, on parlait au micro, voilà, c'est jamais évident, quoi. C'est même difficile, quoi. Donc c'est une manière d'apprendre et d'être sûr.
Et de progresser.
Voilà, de progresser, quoi. Par contre, à l'écrit, c'est plus simple. Voilà. Ouais.
Allez, une nouvelle question que de nombreuses personnes ont posée à la Storgs.
De grosses personnes, t'as dit ?
Non,
de nombreuses
personnes.
Il a dit.
Ah, pardon.
Donc là, j'ai pris les pseudos de certains, pas tous, veuillez m'en excuser. Alax Storgs et JB414 qui nous demandent : arrivant en fin 2010, que pensez-vous de cette décennie passée de jeux vidéo ?
Moi, je l'ai trouvé moins bien rythmé que celle d'avant.
Moins bien rythmé.
C'est, en gros, c'est de 2000 à 2010, hein, même si ça fait pas une décennie. On
voilà,
sait,
comparé à 90 à 2000, ouais. Ouais, j'ai trouvé que 90-2000 c'était vraiment une ascension. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de creux à l'arrivée de la Xbox. À 2005-2006, j'ai trouvé que 2007, il y a une remontée là, depuis 2007-2008.
C'est la fin de cette décennie qui est extraordinaire, moi je trouve.
Ouais, oui, je suis d'accord.
Sinon, vraiment extraordinaire.
Moins bien rythmé, moins.
Mais c'est le début des. À chaque fois, l'arrivée de nouvelles consoles, c'est toujours un peu.
Ouais, attends, il y a quand même un truc aussi, c'est qu'au début 90,
il y a encore la PS2.
C'était début de la 3D, ouais, non,
pardon, je crois que c'était début 2000.
Non, début 90. Et ça, quoi qu'on fasse, voilà, c'est un monument historiquement.
C'est inattaquable. Il n'y aura jamais mieux que le passage à la 3D.
Si, il y aura peut-être le passage à l'holographie, mais on sera peut-être mort.
On sera peut-être mort, c'est ça.
On va mourir, nous aussi.
Non, c'est pas prévu.
Mais ils vont sortir chez nous avant.
C'est-à-dire que.
Mais c'est vrai que, après, c'est toujours paradoxal, mais je pense que les jeux qu'on découvre dans ces 20 premières années laissent toujours une empreinte un peu différente d'après. Et c'est vrai que dans la décennie d'avant, la 90-2000, il y a eu les Resident Evil, il y a eu Final Fantasy VII, il y a eu l'arrivée de la 3D, comme on le disait, les Gran Turismo, les Ridge Racer, quand il y a eu des claques colossales.
Il y avait encore beaucoup plus de, mais il y avait plus de place pour l'innovation.
Il y a eu le jeu réseau aussi.
Qui a,
le jeu réseau est né aussi à cette époque-là, vraiment sérieusement. Enfin, il y a eu tellement de choses sur lesquelles on surfe encore aujourd'hui qui sont nées dans les années 90 que c'est vrai que c'est bon.
Ça a été un peu la décennie des premières, celle d'avant.
Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'il vous remarque de 2010 à 2020, c'est tellement loin, il peut se passer tellement de choses.
Mais rappelle-toi, en 2000, c'était déjà vachement loin, 2010.
Alors, c'est vrai, et tout d'un coup, c'est venu vachement plus vite. Hein, oui, oui.
Tu m'étonnes.
Tu viens de me foutre un coup de barre de ouf. Là, c'était ton anniversaire, d'ailleurs.
C'est vrai, j'ai fêté mes 21 ans.
C'est vrai, 24 ans.
Je suis con, moi. Bien sûr, oui, 24 ans.
On s'est joué à 4 ans.
Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'était une mauvaise décennie.
On sait pas, mais...
Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'était une mauvaise décennie.
Ah non, non, non,
franchement. Non, tout à fait, non, non.
Non, finalement. Puis celle-ci, c'est plutôt la démocratisation en fait. Finalement, c'est plus du côté du point de vue social et réception du jeu vidéo que ça a changé beaucoup.
Puis ce que j'aime bien, on en parlait tout à l'heure, c'est la maturité aussi. C'est le fait que maintenant, on ose faire des choses, on teste des choses qu'on pouvait pas tester avant. Il y avait encore tout à mettre en place, etc.
Mais je pense
donc
que
c'est moins sur l'innovation, mais c'est plus dans la subtilité. C'est comme la télé, forcément, le moment où t'as inventé la télé, bon, quand t'es passé à la couleur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de subtilité dans les films,
dans la
les
télé,
séries.
C'est vrai, Julien. Il y a des émissions de haute qualité.
On regarde pas la même chose, mon cher.
Oh
non, mais regarde tout ce qu'on peut inventer après, dans tout ce qui a été inventé dans les séries, etc. C'est vraiment hyper intéressant après dans la maturité, je trouve.
Non, mais si,
moi,
c'est
je pense que c'est la décennie prochaine qui va nous permettre. Enfin, moi, je trouve qu'on est encore. Il n'y a pas de vrai jeu qui traite le.
Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont quand même super.
D'amour, le sexe, la mort, etc. C'est encore des sujets un peu tabous dans le jeu vidéo. Que j'espère. Ah non,
mais ça sort. Il y a Castro l'autre jour. Il y a la mort, il y a été.
Ouais, mais c'est pas pareil.
Non,
c'est vite fait.
Non, mais en fait, il ne veut pas dire la mort, il veut dire le deuil, je pense.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même certains jeux comme ça, avec des petites sorties intéressantes, justement, de sentiments nouveaux, d'expérimentations, etc. Moi, c'est ça que j'aime dans la fin de cette décennie.
C'est l'analyse qu'on peut avoir de l'expérience.
En tous les cas, je pense qu'on regarde tous l'avenir avec beaucoup de
complexité.
Si j'ai dit l'expérience, oui. C'est pour ça.
Non.
Ok, d'accord.
Allez-y.
Non, j'ai même oublié la fin de ma phrase, du coup. Donc,
je suis désolé.
C'est pas grave.
C'est la faute de Marie-France.
Elle nous a pourri ce podcast.
Grave,
la putain, c'est qui?
Le mot est lâché.
Tu vas avoir Giuseppe qui va t'arriver sur la gueule.
Il a qu'à venir.
Cédric et Lali Loulélo nous posent une question très simple. Serez-vous présent au Video Games Live le 17 décembre prochain?
Oui.
Bien sûr. Vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le concert de musique dédié, de musique de jeux vidéo qui se passera
au Palais des Congrès,
voilà, à Paris.
Porte-maillot.
Avec un nouveau spectacle, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y avait pas mal de personnes. Il y a deux ans, c'était génial. L'année dernière, c'était chouette, mais c'était un peu de
beaucoup,
la redite.
Beaucoup, ouais, c'est vrai.
Par rapport à l'année précédente,
il y aura encore des trucs, ils vont quand même garder encore des trucs.
Très peu.
Ah bon?
Alors, on m'a donné la playlist et. C'est vraiment à 90% facile renouvelé.
D'accord.
Beaucoup moins.
Il y a un nouveau
Final
chef
Fantasy.
D'orchestre aussi.
Oui.
Dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui remplace l'ami.
Putain, merde. Mark Hall.
Mark Hall. Wall, non. Oui. Enfin, musique les.
Le mec. Voilà. Chef d'orchestre, c'est plus le même.
Qui faisait les musiques de Mass Effect et tout ça.
Mais effectivement, ouais, la playlist va être. Chouette
Jack
avec
Wall.
Jack Wall, ouais. Avec beaucoup de jeux un peu plus récents aussi et moins de dominantes Final Fantasy-ienne. Parce que l'année dernière c'était un peu.
Il y a du Shenmue ou...
Alors j'ai pas le droit de le dire, mais je te dirais. Et je crois que j'ai un doute.
Hors antenne.
Je crois que j'ai un doute. je crois que j'ai un doute, mais il y a des beaux jeux, hein. Y a des trucs assez surprenants.
Puis il y a un concours de ouf avec Guitar Hero aussi.
Ouais. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez peut-être arriver sur la grande scène.
Hein. Oui.
Il y a un concours sur Dailymotion actuellement.
Bah, c'est ça.
Vous balancez la vidéo, votre vidéo de vous en train de jouer, interpréter un morceau de musique de jeu vidéo. Et le meilleur, celui qui aura le plus de vues, de clics. Et en cela, les blogs de Gameblog peuvent être intéressants, hein, si vous en avez.
Exact.
Sera invité comme ça à jouer son morceau devant le public, la foule,
de plus d'un millier
de personnes. Ah ouais, parce que franchement. C'est un show, hein.
C'est une ambiance super sympa.
Ouais. Les spectateurs sont pas juste assis à regarder.
Ils le disent dès le début du spectacle d'ailleurs. N'hésitez pas. Ouais. On joue avec des violons, etc. Mais
vous avez le droit de gueuler.
Ouais. Gueuler si vous êtes content, etc. C'est vraiment cette ambiance là, très sympa.
Allez, une dernière question pour conclure ce podcast dédié à vous, les lecteurs. Une question de numéro 6. Qui nous demande.
Faut que tu la fasses avec l'accent toulousain, c'est là, je pense.
Ah, mais je sais très mal faire les accents. Ah, tu veux le faire ?
Non, je suis très mauvais en accent.
Ah non, c'est mieux que moi. Pouvez-vous expliquer la private joke, l'histoire lui donnera raison, qui provoque régulièrement l'hilarité dans les podcasts et frustrant pour ceux qui, comme moi, ignorent de quoi vous parlez.
Ah.
Bah, on va vous y répondre. C'est une private joke qui concerne Raon généralement, à un moment.
Ouais.
Quand on est comme ça, on dit. Quand Raon part dans des grandes phrases, des grands thèmes, on lui dit ne vous inquiétez pas, l'histoire lui donnera raison, et on se marre tous.
Et c'est la faute de Seb.
Enfin, c'est pas faux d'abord.
Non, oui,
c'est
non, mais
toi qui l'as dit.
Alors justement,
alors,
oui, non,
qui
mais
Seb,
en fait,
parce que les gens ne savent pas.
Alors Seb travaille notamment sur l'émission pour Bouyaka et Gameblog, aussi en reportage à côté, mais enfin il est surtout sur l'émission Gameblog. Il avait fait, je sais plus comment
c'est
ça s'appelle,
un documentaire
mais,
sur
MCM,
voilà. Sur l'histoire du jeu vidéo, les 30 ans d'histoire du jeu vidéo.
Voilà, où il a interviewé plusieurs personnes.
Dans la bande annonce, vous pouvez voir Raon d'ailleurs qui sort cette phrase.
Je crois pas que ce soit dans la annonce, mais c'est à l'extrait qu'on avait donné de 10 minutes sur le site que vous pouvez retrouver. Genre on avait donné les 10 premières minutes du reportage
et en fait en gros c'était remémoration des bons moments, etc., 20 ans de jeux vidéo, tout ça, et à un moment on parle de Sonic et j'expliquais en fait que il y avait un truc qui me paraissait aberrant sur Sonic, c'était que d'un certain point de vue dans le gameplay il fallait aller très vite et de l'autre il fallait ramasser des anneaux, et que pour moi c'était donc deux concepts qui s'opposaient un petit peu, parce que tu peux pas ramasser vraiment tous les anneaux partout, trouver les passages secrets si tu vas à fond la caisse dans le niveau,
et donc c'était une grosse erreur, grossière erreur de game design en fait.
Voilà, et j'ai donc rajouté pour conclure ce truc là, et l'histoire m'a donné raison, j'ai éclaté de rire après, sauf qu'il a coupé les rires après et du coup ça fait super sérieux dans le truc.
Ce qu'il faut maintenant savoir, ça c'est la vision de Raon. Quand on est au restaurant ou n'importe où, ils nous regardent avec un petit air là. UMPiste, et en nous disant tu verras.
Quoi, moi UMPiste,
ça va pas,
non. Non, mais c'est vrai que du coup, comme c'est un peu coupé, on a l'impression que je suis super sérieux. Et que,
grave.
Et que
voilà. Sûr qu'il y avait un rire après.
Bah, je sais pas. Non, ça, c'est sûr.
Bah, écoute, on va chercher la TV. Demande les rushs, tu verras bien.
Si ce n'est pas le cas, tu seras fouetté.
Oh.
Tu es mort ça. Et bien voilà, ainsi s'achève ce deuxième podcast dédié à vous, courrier des lecteurs numéro 2. Vous le voyez, on essaye de répondre à un maximum de questions, bien évidemment on fait toujours des heureux et des malheureux, mais en tout cas voilà, des questions 100% jeux vidéo une fois par mois, et bien c'est sur les podcasts de gameblog.fr. nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème complètement incroyable. D'ici là, dans les forums, vous pouvez continuer à débattre entre vous, toujours avec classe, pertinence et respect de l'autre. À très bientôt dans les podcasts de Gameblog. Ciao.
Ciao.
Ciao.